J'ai compté 3 porcs par personne.
3 porcs ?
Pourquoi on n'a pas de tracteur ?
Tu veux te lancer dans l'agriculture maintenant ?
Le légume. Parce que vous avez dit gratin.
T'enfiler les OGM, les pesticides, les prions et compagnie, mais vas-y.
Je vois pas le rapport avec la Bretagne.
La Bretagne est la première région agricole de France. 12% de la production brute standard nationale est bretonne et plus de la moitié du territoire est consacré à l'agriculture. La région est également première pour la production animale. Mais le modèle intensif actuel mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pose question. Algues vertes, nitrates, sols morts et rivières polluées sont autant de conséquences directes d'un secteur qui épuise les sols et les femmes et les hommes qui les travaillent.
Mathieu Dalmet est agronome de formation. Avec un parcours orienté dans différentes organisations de transformation agricole vers des circuits courts, des agricultures biologiques et paysannes.
L'agro-industrie, c'est d'abord une organisation politique au service du pillage de cette filière-là, de l'asservissement des populations productives agricoles et d'une mauvaise qualité. Et techniquement, ça se marque aussi par des itinéraires techniques spécifiques où on va chercher à rationaliser, organiser le vivant, artificialiser complètement les choses avec des méthodes basées sur des produits de synthèse, que sont les pesticides, que sont les engrais, que sont tout un tas de médicaments pour le monde animal, avec des formes de bâtiments et d'agriculture qui vont pas du tout respecter des logiques plus naturelles, à la fois dans l'espace qu'on va laisser aux animaux, à la fois dans les complémentarités agriculture-élevage. Et donc, voilà, face à ça, ce qu'on va dire qui sort de l'agro-industrie, même si la barrière est souvent très perméable, on ne sait pas exactement, en définition d'un système. Des fois, est-ce qu'on le qualifie d'industrie ou pas ? Et la norme va bouger suivant les personnes. Mais je dirais qu'avant tout, c'est la dynamique de pillage économique dans laquelle il est, plus que le modèle technique en tant que tel. Et derrière, c'est une course en avant à optimiser et pas à réfléchir les équilibres. Mais après, la pratique en tant que telle, la technique, elle peut se retrouver à flirter à la limite entre des systèmes qu'on va dire industriels, des systèmes plus artisanaux.
Vous voyez mon beau jardin ?
C'est quoi ?
Ça, c'est des pommes de terre, les petits pois. Et malheureusement, les escargots, vous voyez, les limaces, je ne traite pas, eh ben, ils m'en ont mangé beaucoup.
Dans les années 60, le système agricole a commencé à changer. Arrivée des tracteurs, des pesticides, dont l'utilisation était même encouragée. Loin du rythme plus traditionnel d'avant, Odette et Daniel, anciens agriculteurs et agricultrices, se rappellent leur quotidien à la ferme.
On déjeunait. Mais
de toute façon, c'était déjà 4 heures à l'hiver, pour l'hiver, je parle surtout. 4 heures de travail le matin auprès des animaux et 3 heures le soir. Donc ça fait déjà 7 heures de boulot. D'office. Ça, c'était obligatoire. On n'arrivait jamais à faire à moins.
Non, donc dans la journée après,
déjà une heure de traite, matin et soir.
Soit les céréales, soit un petit peu de bois, parce qu'on chauffait au bois. Enfin, il y avait toujours quelque chose à faire, quoi, forcément.
Après, c'est l'entretien des champs, de l'hiver, tout ce qu'il y a à faire, l'entretien du matériel.
Oui, il y avait contrôle laitier. Le contrôleur laitier, on avait une fois par mois. La peseuse avant, les techniciens qui venaient pour les engrais, tout ce qu'on avait besoin aussi. Bon, là, quand c'est comme ça, on s'arrêtait une demi-heure, quoi. Mais sinon...
Oui, mais ça fait partie du travail, quand même.
Oui, eh ben, oui.
Ah, forcément.
Ah ben, chez mes parents, on trayait la main. Déjà, on coupait tout, plus ou moins, la faucille, la lieuse. Non, que Daniel avait déjà ce qu'on appelle un transfert. Donc, il fallait brancher les vaches, évidemment, mais là, c'était déjà mieux. Là. Et puis, le matériel agricole, ça allait.
Le matériel agricole, on était équipé.
Tu avais à peu près tout, toi, alors.
On avait tout, il nous manquait la moissonneuse, l'ensileuse et l'épandeur à fumier. Et la tonalisée. Le semoir à maïs aussi, mais ça, c'est des trucs qu'on recevait une fois par an. C'est tout.
Donc, ça, on travaillait avec une Cuma. On louait le matériel et le gars venait avec quelquefois aussi. Ben disons que avec les machines, les tracteurs, c'est quand même moins fatigant que mes parents. Parce que moi, personnellement, j'ai pas semé le blé, par exemple, à la main. Maman, elle semait le blé à la main. Hein. Elle avait un grand truc là, qu'elle portait, là, qui était en bois, qui était lourd. Et elle semait le blé, l'engrais et tout. Et elle faisait ça un après-midi entier. Hein. Alors, moi, je n'ai pas fait ça quand même. Donc, on avait le semoir, on avait tout. Nous, après, à la ferme, c'était... C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je trouvais ça bien.
Jusque-là, on vend nos produits d'après le marché. Si on produit trop, ça baisse. Si on produit pas assez, ça monte. C'est le marché, ça. Et il n'y en a plus. Puisqu'on remplace ça par une politique dirigée avec des prix garantis, fixés à Bruxelles chaque année. Tout, la viande, les céréales, etc. Donc, on n'a plus de limite à la production. Donc, la voie est ouverte à produire de plus en plus ce qu'on veut, n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est la politique agricole commune.
Ce qu'on appelle la PAC aujourd'hui, ça va être lancé à partir des années 60-62, dans cette logique de modernisation agricole, d'accompagner par des subventions toute la mise en place d'une forme d'agriculture plus industrialisée. Alors, je pense que dans les années 60, il y avait besoin un peu de moderniser tout un tas de systèmes techniques, mais pas du tout au point où on en est arrivé. Il fallait très vite relâcher cette idée-là. Et ça, c'est pas fait. Hein, et on va continuer toujours en avançant.
C'est équipé comme ça, au fur et à mesure du temps. Suivant la technologie aussi, parce que la ça y a évolué.
Voilà, la ferme de mes parents, moi, c'était un cheval. Hein. Papa travaillait la terre avec un cheval. Il a fini quand même avec un tracteur. Mais sinon, toi, t'avais tout. Et...
Ah, moi, j'ai commencé avec un cheval aussi. Hein.
Oui, aussi, voilà. Mais quand je t'ai connu, c'était deux tracteurs. Donc, on avait chacun le sien. Je travaillais aussi bien la terre que lui. Enfin, pas tout, mais j'en faisais beaucoup.
Ah ben, c'est vrai que l'équipement agricole a beaucoup avantagé l'exploitation. Mais bon, encore que maintenant, ce qu'on avait et ce qu'ils ont maintenant, c'est totalement différent. Hein.
Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, en fait, je vais revenir un peu plus en arrière, mais voilà, depuis le début de la Troisième République, la politique agricole française, jusque dans les années 60, c'était quelque chose de très protectionniste. Donc c'est-à-dire, on maintient des prix élevés agricoles, et la France va être un peu une exception, et ça va permettre de maintenir une population agricole très élevée, d'avoir des prix beaucoup plus rémunérateurs. Et on va sortir de là, dans l'idée d'aller gagner des parts de marché à l'international et tout ça. Et donc, à partir de là, on va avoir des prix très bas. On va avoir des prix qui conviennent plus pour toute une partie de l'agriculture. Et donc la PAC, ça va venir compenser ça, quoi. Compenser le fait que, au coût du travail de notre contrat social, hein, dans notre coût du travail, voilà, il y a l'éducation, il y a les routes, il y a la santé, il y a tout ça. En France, on n'est pas compétitif pour aller vendre, et donc il faut compenser par des aides. Et du coup, de plus en plus, la PAC va devenir ce qui va rémunérer à peu près le revenu agricole. Hein. Je crois que c'est à peu près 13 milliards de revenus agricoles par an et 10 milliards d'aides PAC. Donc voilà, si on enlève la PAC, il n'y a quasiment plus de revenus agricoles parce que au prix des denrées au niveau international, quasiment aucun système en France n'arrive à s'en sortir correctement.
De ces expériences amères naquit un courant en faveur de la coopération agricole. Dans de nombreux pays, des hommes apparurent pour montrer comment l'agriculteur pouvait par lui-même se libérer de ses dettes et améliorer ses conditions de vie. Ces hommes enseignèrent qu'en s'unissant, il est plus facile d'atteindre la sécurité et à la prospérité qu'en travaillant seul. Un pour tous pour un. Telle était leur devise.
Une coopérative agricole, c'est pour moi la parfaite exemple de l'illusion qu'on peut faire mieux dans un monde libéral. En fait, quand vous avez un monde libéral ultra-violent qui va pousser à la compétitivité de tous les producteurs de l'ensemble de la planète en même temps, et que la seule règle, c'est de chercher à survivre pour ne pas se faire bouffer ses parts de marché, vous êtes obligé de devenir un acteur catastrophique si vous voulez faire quoi que ce soit. Et donc vous avez beau avoir des statuts coopératifs, hein, la coopérative agricole, c'est vieux comme histoire de coopération, d'agriculteurs qui se disent bah, pour pouvoir mieux vendre, pour s'organiser, on va monter des coopératives pour faire ensemble. Sauf que les règles du jeu sont biaisées. Hein, les règles du jeu, c'est vous serez en concurrence avec l'ensemble du monde Et si vous voulez vous en sortir, vous avez une seule solution, il faudra bouffer les autres. Et donc, produire peu cher, éliminer tous ceux qui ne sont pas productifs pour piquer leurs terres. Et produire du volume et pas cher, c'est votre seule porte de salut. Et donc, pris dans ce système-là, qui forcément élimine des paysans et qui forcément pousse à l'industrialisation, au recours aux pesticides et aujourd'hui à la nouvelle vague OGM robotique numérique, la coopérative, c'est ce qu'il y a de moins pire pour essayer d'organiser les choses. Mais ce sont devenus des outils complètement pilotés par l'agro-industrie, hein, de plus en plus. Et en même temps, ça reste les seuls qui offrent des débouchés pour les paysannes et les paysans. C'est-à-dire que il y a une toute petite partie qui va faire un pas de travers et dire « bon, on va produire autrement, on va passer en bio, en circuit court, tout ça », sauf que ça peut sauver qu'une mini-partie de l'agriculture. Et à côté de ça, aujourd'hui, vous voulez être paysan, vous avez une ferme à récupérer, à hériter de vos parents ou quoi que ce soit, il n'y a que ces filières-là qui offrent quelque chose. Et donc, c'est de là que vient leur force, hein, c'est que ce sont les seuls à parler au monde agricole aujourd'hui et de là où ils sont. Pour moi, le problème, c'est pas les coopératives, c'est les règles du jeu dans lesquelles on les met. Il est urgent de construire un nouveau contrat social, là où, depuis les années 60, on a décidé de mettre l'agriculture française en compétition avec l'international, de produire peu cher pour essayer de gagner des parts de marché à l'international et de rééquilibrer la balance française. Il faut absolument changer ça et proposer des contrats rémunérateurs à l'ensemble de l'agriculture, avec des engagements sociaux, écologiques, mais sortir de cette règle-là. La coopérative, c'est ce qu'il y a, à mon avis, de moins pire encore aujourd'hui dans les règles du jeu qu'on a posées.
Voilà pour ce premier état des lieux de l'agriculture intensive en Bretagne. Dans le prochain épisode, nous questionnerons les conséquences écologiques et environnementales de cette agriculture, notamment à travers l'impact des pesticides sur les eaux et rivières de Bretagne, sur les sols et la biodiversité.